1964. Aphorisme.
Vivekananda, exaltant le sannyas, disait que dans toute l'histoire de l'Inde, il n'y avait qu'un Janaka. Il n'en est rien, car Janaka n'est pas le nom d'un seul individu, c'est une dynastie de rois, maîtres d'eux-mêmes, et le cri de triomphe d'un idéal. Un autre.
C'est le premier.
Parmi les milliers et les milliers de sannyasins vêtus d'ocre, combien sont parfaits? C'est le petit nombre des accomplissements et le grand nombre des approximations qui justifie un idéal. S'il y a eu des centaines de sannyasins parfaits, c'est parce que le sannyas a été partout prêché et abondamment pratiqué. Qu'il en soit de même pour la liberté idéale, et nous aurons des centaines de janakas. Le sannyasa a une robe officielle et des signes extérieurs. C'est pourquoi les hommes se figurent le reconnaître aisément. Mais la liberté d'un janaka ne s'affiche pas. Elle porte la robe du monde. Narada lui-même était aveugle à sa présence. Il est dur d'être dans le monde, homme libre, tout en vivant la vie ordinaire des hommes. Mais justement parce que c'est dur, il faut tenter de l'accomplir.
C'est tout.
Il y en a d'autres, un peu du même ordre, mais qui sont aussi un embranchement différent. Peut faire l'objet d'autres commentaires.
Évident, ça a été beaucoup, beaucoup répété. Ça.
C'est évident, mais c'est difficile.
N'est-ce pas? Être libre de tout attachement, ça ne veut pas dire fuir les occasions de l'attachement. Ce que font les gens qui affirment leur ascétisme, ce n'est pas seulement fuir, mais c'est prévenir les autres qu'ils ne doivent pas essayer. Mais ça me paraît tellement évident. Quand on a besoin de fuir une chose pour ne pas l'éprouver, ça veut dire qu'on n'est pas au-dessus, qu'on est encore à ce niveau-là. Tout ce qui supprime et diminue, amoindrit, ne libère pas. La liberté doit d'être éprouvé dans la totalité de la vie et des sensations. Justement, il y a eu toute une période d'études au point de vue purement physique. Pour être au-dessus de toute erreur possible, la tendance est de supprimer les occasions d'erreur. Par exemple, si on ne veut pas dire des mots inutiles, on parle plus. Les gens qui se vouent au silence, ils s'imaginent que c'est contrôler la parole, c'est pas vrai. C'est seulement supprimer l'occasion de parler et par conséquent de dire des choses inutiles. Pour la nourriture, ne manger que juste ce qu'il faut dans l'état transitoire où nous nous trouvons, où on ne veut plus vivre cette vie entièrement animale qui est basée sur l'échange matériel et la nourriture. Mais ce serait folie de penser qu'on est arrivé à l'état où le corps peut subsister absolument sans nourriture. Pourtant, il y a une grande différence puisqu'on est en train d'essayer de trouver l'essence nutritive des choses pour diminuer le volume. Mais la tendance naturelle, c'est le jeûne. C'est une erreur. De crainte de nous tromper dans nos actions, nous ne faisons plus rien. De crainte de nous tromper dans nos paroles, nous ne disons plus rien. De crainte de manger pour le plaisir de manger, on ne mange plus rien. Ce n'est pas la liberté. C'est tout simplement réduire la manifestation à son minimum et l'aboutissement naturel, c'est le nirvana. Mais si le Seigneur voulait seulement le nirvana, il n'y aurait que le nirvana. Il est évident qu'il conçoit la coexistence de tous les contraires. Et que pour lui, ça doit être le commencement d'une totalité. Alors, on peut évidemment, si on sent que l'on est fait pour soi, choisir une seule de ces manifestations, c'est-à-dire l'absence de la manifestation. Mais ce n'est encore qu'une limitation. Et ce n'est pas la seule manière de le trouver, il s'en faut. C'est une tendance qui provient probablement d'une suggestion ancienne ou peut-être d'une pauvreté, d'une incapacité. Réduire, 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 réduire ses besoins, réduire ses activités, réduire ses paroles, réduire sa nourriture, réduire sa vie active, et tout ça, comme ça. Dans une aspiration de ne plus faire de fautes. On se supprime l'occasion de les faire. C'est pas une guérison. Mais l'autre est beaucoup plus difficile.
Oui. Je pense par exemple aux gens qui vivent en Occident, qui vivent la vie de l'Occident. Ils sont constamment avalés par le travail, des rendez-vous, des téléphones, des gens à voir. Ils n'ont pas une minute pour purifier ce qui tombe constamment sur eux et pour se ressaisir. Dans ces conditions, comment est-ce qu'ils peuvent être des hommes libres? Comment est-ce possible?
Oui, mais ici, on est à l'autre extrême. Je ne veux pas dire à la fin.
Oui.
Non, la solution, c'est de n'agir qu'avec l'impulsion divine, de ne parler qu'avec l'impulsion divine, de ne manger que sous l'impulsion divine. C'est ça qui est difficile, naturellement, parce que vient immédiatement ne pas confondre l'impulsion divine avec une impulsion personnelle. Il y a, n'est-ce pas? C'était ça l'idée, je crois, que supprimer tout ce qui vient du dehors ou d'en bas, de façon à ce que si quelque chose d'en haut se manifeste, on soit en état de le recevoir. Mais ça, c'est un... Au point de vue collectif, c'est un processus qui peut prendre des milliers d'années. Au point de vue individuel, c'est possible. Mais alors, il faut garder l'aspiration, il faut garder intacte l'aspiration de recevoir la vraie impulsion. Pas cette aspiration de libération complète. L'aspiration d'identification active avec le suprême, c'est-à-dire de ne vouloir que ce qu'il veut, de ne faire que ce qu'il veut, de n'exister que par lui, en lui. Alors on peut essayer la méthode. C'est la méthode de celui qui veut se couper des autres. Et est-ce qu'il peut y avoir une intégralité dans ce cas-là? Ça me paraît pas possible. Ça aide considérablement d'afficher publiquement ce que l'on refait. Ça peut créer des objections, des mépris et des conflits. Mais c'est largement compensé par l'attente publique, on peut dire, ce que les autres attendent de vous. Et c'était certainement ça la raison de ces robes. C'était pour prévenir les gens. Évidemment, ça peut attirer sur vous le mépris de certaines personnes et la mauvaise volonté. Mais ça, il y a tous ceux qui ont le sentiment qu'il ne faut pas toucher, pas s'en occuper, ça ne me regarde pas. Je ne sais pour quelle raison, mais ça m'a toujours paru un cabotinage. Ça peut ne pas l'être. Dans des cas, ça ne l'est pas. Mais c'est tout de même... C'est une façon de dire aux gens, hein, voilà ce que je suis. Je dis, ça peut aider, mais ça a des inconvénients. C'est encore de l'enfantillage. Tout ça, c'est des moyens, des étapes, des marches. Mais la vraie liberté, c'est d'être libre de tout, de tous les moyens aussi. Là est une restriction, un resserrement. Mais la vraie chose, c'est l'épanouissement, l'élargissement, l'identification avec le tout. Quand on se réduit, on n'a pas de chance de se perdre. ça vous enlève cette crainte de se perdre. Ça en devient quelque chose de solide et de compact. Mais la méthode de l'élargissement, n'est-ce pas, l'élargissement maximum, là, il faut pas avoir peur de se perdre. C'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire, toi?
Non, je me demandais justement comment c'est possible dans un monde extérieur qui vous absorbe constamment. Comment est-ce que c'est
possible? Ah, il faut en prendre et en laisser. Il est certain que les monastères, les retraites, la fuite dans le bois ou dans la caverne sont nécessaires pour contrebalancer la suractivité moderne. Et pourtant, ça existe moins maintenant qu'il y a à peu près un millier d'années. C'est 2000 ans auparavant que c'était le plus, n'est-ce pas, c'était le plus fort. Mais il me semble que c'était une incompréhension. Ça n'a pas duré. Maintenant, c'est évidemment l'excès d'activité qui rend nécessaire l'excès d'immobilité.
Oui, mais trouver le moyen.
Comment ça, trouver le moyen?
Trouver le moyen, justement, d'être ce qu'il faut dans des conditions...
Comment n'avoir ni un excès, ni l'autre?
Oui, de vivre normalement et puis... être libre.
Vous me dites, c'est pour ça qu'on a fait la chambre. C'était ça l'idée. C'était l'idée parce que, n'est-ce pas, en France, c'était tout le temps ça. Comment est-ce qu'on a le temps de se trouver? Comment est-ce qu'on a le temps de, n'est-ce pas, de comprendre le moyen de se libérer? Alors, l'idée était comme ça, un endroit où les besoins matériels sont suffisamment satisfaits pour que si vraiment on veut se libérer, on puisse se libérer. Et c'est sur cette idée-là que la chose a été fondée, pas sur une autre idée que celle-là. Un endroit où les gens puissent et les moyens d'existence suffisants pour qu'ils aient le temps de penser à la vraie chose. la nature humaine est telle que la paresse a pris la place de... La paresse a pris la place de l'aspiration, pas pour tous, mais enfin d'une façon assez générale, et la licence ou le libertinage a pris la place de la liberté. Ce qui tendrait à prouver que l'espèce humaine doit passer par cette période de manipulation brutale afin d'être prête à un retirement plus sincère. Il y a bien le premier mouvement est bien comme ça. Enfin, trouver l'endroit où on peut se concentrer, se trouver soi-même, vivre vraiment sans avoir la préoccupation des choses matérielles. Ça, ça vient. Puisque c'est même là-dessus que, en tout cas au début, tous les gens étaient choisis. Et ça ne dure pas. Les choses deviennent faciles, on se laisse aller. On n'a pas de contraintes morales, on fait des bêtises. Mais on peut même pas dire que c'est une erreur de recrutement. On serait tenté de dire ça, mais ce n'est pas vrai. Parce que le recrutement a été fait sur un signe intérieur assez précis et clair. Mais c'est probablement une difficulté de garder sans mélange cette attitude intérieure. C'est justement, n'est-ce pas? C'est justement ça. Si Aubindo voulait essayer, mais lui disait, si je trouve 100 personnes, ça me suffit. Et ça n'a pas été 100 pendant longtemps. Et je dois dire que quand c'était 100, c'était déjà un mélange. Des gens comme ça qui sont venus attirés par la vraie chose. Mais un relâchement. C'est-à-dire l'impossibilité de se maintenir ferme dans sa position vraie.
Oui, j'ai remarqué que dans l'extrême difficulté des conditions extérieures du monde, l'aspiration est beaucoup plus intense.
C'est ça.
Ça, j'ai remarqué, c'est beaucoup plus intense.
C'est ça.
C'est presque une question de vie ou de mort.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'homme est encore si fruste qu'il a besoin des extrêmes. Il a besoin des extrêmes. C'est ce que Aubindo dit quand il dit que pour que l'amour soit vrai, il avait besoin de la haine. Que l'amour vrai ne pouvait naître que sous la pression de la haine. C'est ça. Bien, il faut accepter la chose telle qu'elle est. Tâcher d'aller plus loin, c'est tout. C'est probablement pour ça qu'il y a tant de difficultés, n'est-ce pas, que les difficultés s'accumulent ici. Difficultés de caractère, difficultés de santé, difficultés de circonstances. C'est parce que la conscience s'éveille sous l'impulsion des difficultés. Que si tout est facile et paisible, on s'endort. C'était comme ça aussi que Chirvindo expliquait la nécessité de la guerre. Dans la paix, on s'abâche. C'est dommage. Je ne peux pas dire que je trouve ça très, très joli, mais ça paraît comme ça. C'est au fond, c'est ça qu'il dit aussi dans le Our God. Si vous avez la force et la connaissance et que vous ne profitez pas de l'occasion, eh bien, il a dit malheur à vous. Ça veut dire, ce n'est pas du tout une vengeance, ce n'est pas du tout une punition, mais vous attirez une nécessité. La nécessité d'une impulsion violente. Réagir contre une violence. C'est une expérience que j'ai d'une façon de plus en plus claire. Ce contact avec cet amour divin véritable, pour qu'il puisse se manifester, c'est-à-dire s'exprimer librement, ça demande une puissance chez les êtres et dans les choses qui n'existent pas encore. Autrement, tout se disloque. Des tas de détails qui sont très probants, mais naturellement, comme ce sont des détails, que ce sont des choses très personnelles dont on ne peut pas parler. Mais c'est sûr, la preuve ou les preuves données par des expériences répétées que je suis obligé de dire ça. Quand cette puissance d'amour pur, merveilleux, qui dépasse toute expression, dès que ça commence à se manifester, amplement, librement, quantité de choses s'écroulent tout de suite, ne peuvent pas tenir, c'est difficile. Alors ça s'arrête. Et cet arrêt que l'on pourrait croire comme une disgrâce, c'est le contraire, c'est une grâce infinie. Thank you. plus concret et tangible de la différence entre la vibration dans laquelle on vit d'une façon normale et presque continue. Et cette vibration-là, rien que la constatation, n'est-ce pas, de cette infirmité, moi je l'appelle nauséeuse, vraiment ça donne la nausée. Ça suffit à tout arrêter. Hier, ce matin, il y a des longs moments, et puis tout d'un coup, il y a comme une sagesse incommensurable qui fait que tout se détend dans une tranquillité parfaite. Ce qui doit être, ce sera le temps qu'il faudra, j'apprendrai. Et alors, tout va bien. Comme ça, tout va bien. Tout va bien immédiatement. Il y a encore une expression. Il a écrit ça aussi. Il a dit, aspire intensément, mais sans impatience. La différence entre l'intensité et l'impatience, c'est tout est une différence de vibration. Eh bien, c'est tout différent. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. Intensément, mais sans impatience. C'est ça. Il faut être dans cet état-là. Et puis, pendant très longtemps, se contenter des résultats intérieurs, c'est-à-dire des résultats de réaction personnelle et individuelle, de contact intérieur avec le reste du monde. Ne pas espérer ou vouloir trop tôt que les choses se matérialisent. Parce qu'on a une hâte qui généralement retarde les choses. Nous vivons, les hommes, je veux dire, vivent harcelés par c'est une espèce de sentiment semi-conscient de la durée si courte de leur vie. Ils n'y pensent pas, mais ils le sentent d'une façon semi-consciente. Et alors ils sont comme ça tout le temps à vouloir vite, passer d'une chose à l'autre, faire une chose vite pour faire la suivante. Au lieu de que chaque chose vive dans son éternité propre, on est toujours comme ça à vouloir en avant. On gâte le travail. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, qui ont prêché, n'est-ce pas, que le seul moment important, c'est le moment présent. Pratiquement, c'est pas vrai. Mais au point de vue psychologique, ça devrait être vrai. C'est-à-dire qu'on vit au maximum de sa possibilité à chaque minute sans prévoir ou vouloir ou attendre ou préparer. Je suis là. Parce qu'on est tout le temps comme ça, pressé. Et on fait rien de bien. Et on est dans une tension intérieure qui est tout à fait fausse. Tout à fait fausse. Tous ceux qui ont essayé d'être sages, ils ont toujours dit ça, n'est-ce pas? Les Chinois l'ont prêché, les Indiens l'ont prêché, de vivre dans le sens de l'éternité. Il y a aussi des gens qui ont essayé en Europe, il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait contempler le ciel, les astres dans le ciel et s'identifier à leur infinité. Des choses, toutes choses qui, c'est ça qui vous élargit et vous tranquillise. Ce sont des moyens. Mais c'est indispensable. C'est une chose que j'ai observée dans les cellules du corps, qu'elles sont toujours. C'est comme si elles étaient en hâte de faire ce qu'elles ont à faire parce qu'elles n'auront pas le temps de le faire. Alors elles ne font rien convenablement. Les gens bouillons. Il y a des gens qui bousculent tout. Ils ont les mouvements brusques et brouillons. C'est qu'ils ont ça à un grand degré. Cette espèce de hâte. Faire vite. Hier, quelqu'un s'est plaint de douleurs rhumatiques dans le dos. Et a dit, oh, ça me fait perdre tant de temps, je fais les choses si lentement. Et puis après, je suis pas content. Et ça m'a donné, n'est-ce pas, se plaindre qu'on a mal, ça veut dire qu'on est douillé, puis c'est tout. Mais ça me fait perdre tant de temps, je fais les choses si lentement. C'était le tableau très clair de cette orage. On traverse la vie en bolide. Pour aller où? Patatra ou où? Pourquoi ça sert? Voilà. Au fond, la morale de tout c'est ces aphorismes, c'est qu'il est bien plus important d'être que de paraître. Ça, c'est là-bas. Il faut vivre et pas prétendre. Et qu'il est beaucoup plus important de réaliser une chose entièrement, sincèrement, parfaitement, que de faire savoir aux autres qu'on la réalise. C'est encore ça. Quand on est dans la nécessité de dire ce que l'on fait, on abîme la moitié de son action. Et pourtant, en même temps, ça vous aide à faire le point, à savoir exactement où vous en êtes. C'était la sagesse du Bouddha quand il disait le chemin du milieu. Pas trop comme ceci, pas trop comme cela, pas tomber dans ceci, pas tomber dans cela. Un peu de tout et un chemin équilibré. Mais pur. La pureté, la sincérité, c'est la même chose. Voilà mon petit.
Ça va bien?
Oui.